Mesdames, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien!
Toi qui écoutes Radio Canu tous les dimanches, enfin pas que tous les dimanches d'ailleurs j'espère, mais comme tous les dimanches de 22h à 23h, c'est la causerie qui commence et ce soir dans les studios nous fêtons le retour de Clara la technique.
Bonsoir.
T'as vu comment elle fait quoi? Bonsoir. Et puis nous avons aussi Fab qui applaudit de ses deux mains.
Bonsoir.
J'ai même droit à une flamme.
Pull up.
Et bonsoir. Pardon. Jean-Yves.
Bonsoir. Et la voilà. Flamme sécatrice à l'avant qui fait des festivités pour le retour de Clara.
C'est gentil.
On va se calmer, on va reprendre nos petites habitudes. Alors, eh ben, on va vous rappeler comment nous joindre, évidemment. Je suis désolé, j'ai un sale son dans mon casque. Donc, pour nous joindre, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des mails à lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Il y a évidemment tous les podcasts que vous pouvez retrouver déjà sur le blog de l'émission, à Blogs.
Avec un S.
Oui, je l'avais bien souligné.
Ouais. Hein.
Ouais. blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Vous aurez compris que Jean-Yves n'est pas dans son état normal.
Mais arrêtez, si, je suis complètement presque normal. Est-ce que tu peux prendre la suite et je vais changer de casque?
Oui, merci. Je vais faire ça. Alors donc, sinon, tu peux donc aussi laisser des commentaires sur le blog. Il n'y a pas de souci, ils ont été réactivés. Et on aime bien quand vous laissez des avis, des commentaires, des compléments. Quand vous nous dites « Ah, t'as dit un truc, mais en fait, je crois que tu t'es planté. » Ou « Ah, c'était vachement bien, mais on peut aussi parler de ça. » Voilà, enfin bref, n'hésitez pas. Sinon, tu nous retrouves sur toutes les plateformes de podcast où tu tapes la causerie canu tout court et tu nous trouves. Et voilà. Et donc, du coup, sinon, on est aussi sur un réseau socio-commercial qui commence par F et qui finit par K. Voilà. Mais évite de venir là. Écris-nous plutôt avec des mails ou sur le blog. C'est encore mieux parce que le blog, ça appartient à Radio Canu.
Tout à fait. Personne ne se fait de l'argent dessus.
Exactement. Et donc, Jean-Yves, c'est toi qui vas démarrer ce soir en nous faisant un petit retour au Canada, mais pas pour des raisons très joyeuses.
Effectivement. Mais c'est pas croyable ça,
ouais, en fait il faut que t'arrêtes de toucher
me bagarre avec mon micro et mon casque. Alors vous vous souvenez peut-être que Fab nous avait parlé il y a un peu plus d'un an dans la causerie du 4 juillet 2021, la 398 pour être très exact, de charniers et cimetières découverts au pied des institutions gérées par le Vatican, comme par exemple des pensionnats, qui étaient évidemment soi-disant là pour éduquer, domestiquer les dits peuples premiers, pour les évangéliser aussi, évidemment. Hein, quand même, l'Église catholique ne fait rien gratuitement.
Bah, c'était la poursuite de la colonisation du Canada. Ouais.
C'est ça. Alors, on parle là de morts et de mortes. Et il faut aussi rappeler qu'il y a eu de la maltraitance, des violences physiques et sexuelles. En tout, on parle de 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits passés par ces institutions. Et on évoque quelques 6 000 morts, des enfants majoritairement. Alors évidemment, si le clergé a pu agir en toute impunité entre 1880 et 1990, c'était avec toute la collaboration et la complicité de l'État canadien, une chose qu'il ne faut absolument pas oublier non plus. Donc ce soir, hein, je vais vous causer de la visite du pape au Canada du 24 au 29 juillet, hein, qui était évidemment en lien avec ce passé. Alors avant son départ de Rome, hein, le pape a adressé sur Twitter, ce qui sont modernes à l'église, ils ont des idées d'il y a 10 siècles, mais ils savent s'adapter.
Mais ils ont Twitter.
Et évidemment. Donc sur Twitter, hein, il a adressé un message assez, je cite, « Chers frères et sœurs du Canada, je viens parmi vous pour rencontrer des peuples autochtones. J'espère que, avec la grâce de Dieu, mon pèlerinage pénitentiel pourra contribuer au chemin de réconciliation déjà entrepris. S'il vous plaît, accompagnez-moi par la prière. » Ce voyage, hein, donc, était présenté comme un pèlerinage pénitentiel où il devrait renouveler ses excuses pour le rôle de l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Alors, vite fait, une petite explication quand même pénitentielle pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à ce vocabulaire. Ça signifie, je cite la définition, caractéristique de ce qui est en lien ou en rapport avec la pénitence, le rituel de punition indispensable à l'expiation des péchés chez les pratiquants catholiques. Le pape était donc là, hein, pour expier des péchés. Alors durant son voyage au Canada, hein, il a entre autres déclaré, je cite encore, « Je souhaite, avec honte mais sans ambiguïté, demander humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones. » Un bon service après-vente, hein, on peut dire, avec multiples présentations d'excuses et de demandes de pardon. Si on n'est pas là dans l'expiation, moi, je sais pas.
Ah, surtout, ça coûte pas cher.
Bah, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je lui ai dit, bah voilà.
Je dis, voilà. Enfin,
le job est fait. Vous voudriez quoi de plus, hein, franchement. Donc durant ces 6 jours au Canada, il n'a jamais prononcé, au grand jamais, le mot « génocide ». Il a attendu d'être dans son avion retour pour prononcer ces mots lors de la conférence de presse dans l'avion.
Alors, en plus, il est doué, hein, parce que
mais bien sûr.
Il a non seulement attendu d'être dans l'avion, mais d'être au-dessus des eaux internationales. C'est-à-dire qu'il l'a fait à un endroit où sa déclaration ne peut pas être pénalement reprise.
Ah, mais,
pas bête.
Mais, oui, oui.
Pas bête.
Je vais quand même citer son propos, hein, dans cette conférence de presse en avion. Parce que, c'est incroyable.
Ah, c'est le nouveau truc, ouais, il parle dans les avions.
Non, c'est souvent qu'il le fait. Hein.
Non, mais c'était son autre truc à lui.
Ah,
hein,
oui, oui.
À
donc,
ce pape-là.
Je cite, hein, je n'ai pas prononcé le mot durant le voyage parce que cela ne m'est pas venu à l'esprit. Mais j'ai décrit le génocide. Et là, d'un coup, l'avion s'est envolé et un quart d'heure après, lumière. Ce qui est fou quand même pour un mec connecté avec Dieu, d'avoir la lumière un quart d'heure après ton départ du territoire où tu étais censé parler de génocide. Non mais vraiment...
C'est un problème de Wi-Fi.
Ouais, ça doit être ça. Donc il continue, pardon, hein, et j'ai présenté mes excuses, demandé pardon pour ce processus qui est un génocide. Technique, hein, c'est ce que je disais, c'est ce que tu disais aussi, hein, souvent utilisé par le Vatican. Hein, lâcher les mots qui sont attendus, mais jamais là où ils sont attendus, et jamais non plus devant les personnes qui attendent ces mots. Qui a dit que le Vatican n'était pas lâchement bon quand même en communication?
Ah bah ils sont doués.
Ils sont très bons.
Ils sont non seulement bons en com, et dans ce cas-là, et comme c'est pas la première fois, hein, qu'il fait ça, oui. Je vous rappelle quand il était rentré d'un voyage en je sais plus quel pays sur le continent africain, il avait aussi au moment où il arrivait dans les eaux internationales, dit effectivement l'Église catholique a participé au massacre, blablabla. Sauf qu'il le fait à un endroit où, encore une fois, pénalement, on ne peut pas retenir ce qu'il a dit. Alors évidemment, il y a des journalistes qui vont dire « on l'a entendu dire ça », ça n'y a pas de problème.
Oui, mais ça n'a...
Sauf qu'en fait, pour pouvoir saisir la justice, il faut que les propos soient prononcés à certains endroits. Et c'est très fin, parce que du coup, là, il ne l'a pas dit au Canada, parce que ça aurait mis l'Église canadienne dans la merde, clairement, parce que le chef de l'Église qui dit « on a effectivement fait un génocide », c'est un peu embêtant.
Ah, c'est des aveux, quoi.
Donc voilà, c'est des aveux. Donc il ne l'a pas fait au Canada, surtout pas, parce que voilà. Mais il le fait en repartant, comme ça, il dit « oula, bon, j'ai fait la moitié du job, c'est bien ».
C'est ça. Donc, on est donc là, face à une institution qui a géré des institutions qui ont maltraité, violé, assassiné, et des excuses et des prières ne vous suffisent pas, vraiment.
Rappelle qu'il jusqu'en 1990, hein, tu dis.
Oui. Qu'il demande pardon à son Dieu qui n'existe pas ne vous suffit pas. Et le pardon, non pas pour l'action de l'Église, hein, non, juste pour tant de chrétiens qui ont mal agi. Savourez la nuance, ce n'est pas l'Église.
Bah oui, c'est ça.
Ce sont quelques individus dans le clergé.
Les fameuses brebis galeuses.
Mais oui. Mais bon, si avec tout ça, vous n'êtes pas content, c'est que vraiment, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment difficile et méchante et méchant.
Et un peu mécréant.
Avec ce gentil clergé, quand même. Alors, les réactions sont multiples et pas toutes unanimes. Et heureusement, parce que les Amérindiens, comme tout individu et groupe d'individus, sont faits d'individus, justement. Donc, ils ne sont pas tous d'accord et ne parlent pas toutes et tous d'une seule voix. Alors, si parmi les retours, on va dire, qu'il y a pu y avoir...
Les Premières Nations, c'était bizarre, les retours, je trouvais.
Alors, si parmi elles, certaines sont contentes de ce voyage, d'autres, avant même l'arrivée du pape, en fait, ont fait part de leur amertume. Je cite Linda McGilvery, qui a 68 ans et qui a passé 8 ans de son enfance dans un pensionnat. Donc je la cite, hein. « Pour moi, c'est un peu trop tard parce que beaucoup de gens ont souffert. J'ai perdu beaucoup de ma culture, de mon ascendance, j'ai beaucoup d'années de pertes. » Regrette cette femme, donc issue de la nation Cree de Saddle Lake, et qui n'a, elle, pas fait le détour pour aller voir le pape, même si elle était à côté d'une ville où il était. Evelyn Corkmaz, une des survivantes du pensionnat de Sainte-Anne en Ontario, a confié en conférence de presse qu'elle a dû attendre 50 ans pour recevoir ses excuses papales. Elle dit, je la cite, « Je suis reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour vivre ce jour. Malheureusement, bon nombre de mes amis et camarades du pensionnat ne sont plus parmi nous et n'ont pas pu entendre ses excuses. Les traumatismes qu'ils ont vécus ont eu raison d'eux. » Par le suicide ou la consommation de substances. J'aurais aimé avoir un plan précis du Vatican sur ce qu'il compte faire pour la réconciliation.
Oui, je souligne ça parce qu'on a tendance à l'oublier, mais tu donnais leur prénom,
oui.
Sauf que ce n'est pas leur prénom.
Ah ben,
c'est qu'en fait, c'est le prénom
qui leur a été assigné
et leur nom de famille n'est pas leur nom de famille. Alors, soit elles se sont mariées et c'est le nom marital, mais soit elles ne sont pas mariées, mais c'est le nom qu'on leur a donné aussi dans ces pensionnats. C'est-à-dire, quand on parle d'effacer complètement l'existence de ces gens, ça passe aussi par là, en fait.
Ah bah oui, c'est renommer les gens, et ils vont déjà perdre une partie de ce qu'ils sont, en fait. Alors bah oui, en fait, ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'est-ce qui va se faire autour de la conciliation, de la réconciliation, parce qu'effectivement, tout est là, en fait. À part dire que certains cathos ont mal agi et ne pas reconnaître l'entière responsabilité de l'Église, il y aura quoi de plus, en fait?
Ah, mais rien.
Il
hein.
y aura quoi d'autre que ces excuses et ces demandes de pardon à genoux sur des lieux, etc. Pour le moment, justement, effectivement, on n'en sait trop rien et on peut craindre qu'il n'y aura pas beaucoup plus. Peut-être une commission pour faire genre. On ne fait pas rien quand même, hein. On agit. Parce que effectivement, en fait, certains et certaines demandent en fait que les archives du Vatican soient ouvertes, parce qu'en fait, cela permettrait d'avoir les noms de personnes responsables des actes, des violences, des meurtres commis. Et quand on sait que certaines de ces personnes, de ces bourreaux, sont encore en vie, des victimes pourraient se tourner vers la justice pour demander une reconnaissance de leur statut de victime et potentiellement un dédommagement, en fait. Mais quand on se souvient que le Vatican, dans des affaires de pédocriminalité, a préféré déplacer les agresseurs, pas les virer, rien, non, les déplacer, les agresseurs, les violeurs, plutôt que de les dénoncer à la justice, on est clairement en droit d'avoir de sérieux doutes sur cette ouverture des archives, en fait.
C'est... Oui, et puis on se souvient qu'historiquement, pour la Seconde Guerre mondiale, le Vatican n'a quasiment pas ouvert ses archives. Il a fallu passer par la justice pour avoir l'ouverture de certaines archives du Vatican. Pour tout ce qui a concerné la colonisation, ça a été la même chose. Pour tout ce qui a concerné aussi les affaires de pédocriminalité en France, c'est la même chose. Et on voit qu'on fait des commissions à 3 balles, pardon de le dire, j'en avais parlé aussi ici, où on dit oui, on a résolu le problème. Ouais, non, en fait, on a juste dit on sait qui c'est, mais par contre, on n'a pas résolu le problème, vu que légalement, on ne va pas au bout et qu'il n'y a même pas de procès ou de choses comme ça. Et encore une fois, là, quand je dis ça, je pas envie qu'on enferme des gens à tour de bras, machin. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'on refuse que soient reconnues comme victimes les victimes. Et le problème, il est là, en fait. Et je pense que le gros problème dans ces affaires qui concernent l'Église catholique, mais ça peut être vrai pour d'autres religions, mais en l'occurrence l'Église catholique, c'est qu'à chaque fois, en fait, elles nous font le même coup, et l'Église catholique en particulier, c'est oui, mais on va demander pardon, et chez nous, le pardon, ça compte. Et moi, je m'en fous que chez eux, ça compte. C'est que dans leur doctrine, le pardon, c'est important, mais c'est leur doctrine. Ça, c'est pas la société, c'est pas la vie, c'est pas les gens. Moi, je sais pas ce que les nations premières canadiennes, comment elles gèrent le pardon dans leur culture, et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que finalement, pardonner est quelque chose qui est concevable, ou est-ce qu'ils ont une autre lecture aussi du pardon ? C'est une possibilité. Est-ce que, quelque part, la reconnaissance doit prévaloir sur n'importe quelle forme de pardon ? Et est-ce que finalement on est obligé de pardonner ? Vous voyez, c'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Mais là, en fait, l'Église catholique, elle arrive et elle dit, moi j'ai ma technique, vous inquiétez pas, j'envoie l'homme en blanc, là. Il va se mettre à genoux devant vous, et une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est pardonné.
Ça y est,
mais
c'est
en fait, non, ça c'est votre doctrine, c'est votre croyance. Nous, on s'en fout. Enfin, moi, je veux dire que le gars, déjà, se sape comme ça, c'est un peu particulier, mais qu'en plus, il décide de se mettre à genoux. Ok, bah, très bien, ça, tout ça, c'est votre délire. Mais c'est pas ce qu'attendent les gens. Et surtout, encore une fois, comme tu le disais, ça a duré jusqu'en 1990 au Canada. Donc, on a les moyens, aujourd'hui, judiciairement, bah, même clairement, de faire des enquêtes, d'avoir des noms, d'avoir des témoignages, de pouvoir aller chercher les gens. Et au moins que ces victimes puissent être connues comme victimes. Parce que pour l'instant, on dit... Il y a le phénomène de victime collective, on dit ça a existé, sauf qu'il y a après, chaque cas a le droit, les individus ont le droit de pouvoir être connus en tant que tels.
C'est ça. Et bien justement, on parle de justice, hein. Ben on peut effectivement se demander en ce fait ce que font les justices du monde. Hein. On a des institutions hein, comme le clergé, comme les États aussi, hein, qui sont responsables à travers des siècles et des siècles, j'ai pas envie de dire amen, mais de massacres, de violences, de viols dissimulés, et aucune justice ne s'empare de ces dossiers en fait. Comme quoi finalement, vaut mieux être des religions, des États assassins, plutôt que pauvres et potentiellement voleurs de bouffe par exemple. Parce qu'en fait, la justice, en fait, elle vous laissera jouir de votre vie, de votre pouvoir, en toute impunité, si vous êtes dans les premiers, en fait. D'ailleurs, si les justices sont déplorables, on peut aussi se questionner sur les individus, en fait, qui continuent de soutenir de telles crapules, en fait. Hein, amis croyantes et croyants, combien de massacres, en fait, faits par vos religions, continuerez-vous de balayer d'un revers de la main avant de leur tourner le dos, en fait ? Combien d'horreurs faites au nom de vos dieux allez-vous supporter avant d'interroger tout ça, en fait ? Et si vos dieux existent, ils sont quand même sacrément tordus d'avoir laissé faire toutes ces violences, en fait, pendant des siècles, quoi.
Et leurs représentants, du coup.
Et leurs représentants, évidemment. Mais je veux dire, si Dieu est omniscient et je sais pas quoi, s'il a laissé faire, ça veut dire que, c'est un bon salopard qui est collaborateur des violeurs et des agresseurs.
Oui, mais là, tu vois, la religion catholique, dans ce cas-là, elle a aussi la réponse. Dieu t'a laissé le libre arbitre tu seras jugé à ta mort.
C'est ça.
C'est tellement pratique.
Okay. En plus, chez les cathos, il suffit que tu expies...
Juste avant de crever, c'est bon.
Tes trucs,
tu vas au paradis. Tranquille.
Non, vraiment, c'est open bar, le paradis, chez les cathos. Pardon.
Je ne veux pas y aller.
Alors, gardez-vous bien, hein, amis croyants, croyantes, de votre ordre moral, en fait, gardez-le pour vous. Quand on parle et défend, par exemple, l'IVG, et arrêtez de jouer les vierges effarouchées quand vous voyez des LGBTI. Droits des femmes, IVG et LGBTI ne sont que des affaires d'égalité, de maîtrise de son corps, et on n'a jamais assassiné pour défendre l'égalité. L'accès à l'IVG, pas plus qu'on a assassiné pour le droit des femmes ou le droit des LGBTI. Contrairement aux dogmes qui ont les mains pleines de sang pour diriger, pour soumettre nos vies, nos corps et nos cerveaux, quoi. Donc voilà, je m'arrête un peu abruptement comme ça, mais c'est juste... En fait, il y a vraiment... La réflexion, elle doit être sur plein de choses. Mmh. Effectivement, ces institutions qui n'ont qu'à mettre des commissions en place, voilà. Donc, si un jour vous avez des ennuis avec la justice, amis auditeurs, auditrices, mettez une commission en place, dites non, mais c'est bon, on va s'en occuper. Et en fait, normalement, vous ne devriez plus avoir de soucis. Bon, peut-être que vous pesez pas aussi lourd qu'un État ou qu'une structure comme les clergés ou une entreprise.
Mais les religions, elles pèsent parce qu'on leur donne du poids, en réalité. Alors, les croyants et croyantes, hein, déjà, qui adhèrent à ces dogmes, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, y a des moments où, parfois, le politique, il peut prendre le pas sur le... Ça s'appelle la sécularisation, hein, d'ailleurs, hein, et ça arrivait. Et moi, je le redis, hein, j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, en Irlande, et pour moi, un excellent exemple. Carrément. C'est-à-dire qu'en fait, en Irlande, il y a eu la même chose qu'au Canada. On a découvert des charniers d'enfants, hein, faut être très clair.
Ah oui, c'est pour ça que je parlais de centaines de massacres et de milliers de morts.
Et on a vraiment trouvé des charniers, parce que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire quand on enterre les corps les uns sur les autres, c'est un charnier, hein, ça porte un nom. Et en fait, la réaction qu'il y a eu en Irlande est totalement différente de celle du Canada. Oui. C'est-à-dire qu'en Irlande, en fait, les politiques, ils se sont retrouvés coincés. Parce qu'ils avaient le choix entre essayer de couvrir un peu le truc, mais ils sentaient bien que la population, elle n'était pas trop prête à couvrir le truc. Hein, vous voyez, c'est, à un moment donné, ça a pris une certaine ampleur. Ou alors, bah, décréter que, en fait, finalement, le politique prévalait, la vie, pas les partis, hein, mais la vie politique, prévalait sur n'importe quelle croyance. Et, tout. Et en fait, en Irlande, ça s'est inversé. C'est-à-dire que les politiques, ils ont pris un petit peu leur courage à deux mains, y compris des partis qui ont surpris, qui étaient plutôt des partis conservateurs, et qui eux-mêmes ont pris un recul en disant « Non mais attendez, il y a des trucs qu'on peut quand même pas couvrir des massacres de masse dans les institutions. Hein, » enfin, regardez le film « Dana Sister », par exemple, vous comprendrez quand on parle de massacre de masse. Et en fait, c'est ça. Mais là, en fait, au Canada, c'est là qu'on a un truc qui va pas. C'est-à-dire que non seulement on a des politiques qui cherchent à tempérer. Moi, je vois les discours de Justin Trudeau sont juste hallucinants. Premier ministre du Canada qui essaye d'expliquer que le pardon va tout résoudre, alors qu'en fait...
C'est un peu plus nuancé.
Alors, il s'est nuancé parce qu'il y a eu des manifs. Parce que la première sortie qu'il a faite, c'était de dire « Enfin, le pape va mettre fin à tout ça ». Mais en fait, non.
Voilà. Ça a donc, pas eu le début, j'ai envie
de dire. Il y a eu des manifestations, du coup, quand même, comme c'est un politique et qu'il y a bientôt des élections au Canada, il s'est dit « Là, ça va être chaud pour moi ». Donc là, il l'a nuancé. Et là, voilà. Mais sa première réaction, c'était ça, c'est de couvrir l'Église catholique. Et en fait, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire dans ce cas-là qui est mis en place aujourd'hui au Canada. Et le problème, c'est que il y a aussi, et là j'ai lu des trucs très intéressants chez les Nations Premières, comme ils disent, ils disent, nos chefs, nos dirigeants sont pour la plupart catholiques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renié la foi qu'on leur a inculquée dans ces pensionnats et tout. Et ils ont une dévotion pour le pape. Et en fait, ce que disent des gens, ils disent, mais comment on peut être cohérent quand en fait on reconnaît au pape quelque chose qui est au-dessus de la loi, alors que nous, ce qu'on demande, c'est que l'Église soit mise en accusation, au même niveau que tout le monde, et que les gens qui ont pratiqué ça ne soient pas mis en dehors de la société, mais bien dans la société. Et ces questionnements-là, en fait, au Canada, ils essayent de les étouffer. Contrairement à l'Irlande, où en fait, ça a donné un débat de société énorme. Alors oui, évidemment, je comprends que l'Église catholique panique, parce que l'Irlande, ils ont perdu un poids énorme.
Bah oui,
c'était leur bastion, et ça s'est effondré.
Il y a plein de gens qui se sont débaptisés, etc.
Le nombre de mariages catholiques en Irlande a été divisé par 5, donc on voit bien quand même que ça a un impact énorme. Donc il y a aussi des sous derrière, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les églises, c'est du fric aussi. À un moment donné. Donc voilà, là on voit que le politique devient complice, finalement, de tout ce qui se passe. Et c'est ça le problème. Et là, moi, je sais pas quelle est la solution, et j'ai pas de solution à donner aux Canadiens ou au peuple premier ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est dommage qu'au Canada, ça n'ait pas le même impact, finalement, qu'en Irlande, et que ça ne devienne pas un sujet de société. Peut-être parce que ça touche, contrairement à l'Irlande, des gens qui sont vus comme non canadiens parce que issus des Nations Premières.
Bah, je veux dire, l'État catho, canadien était pleinement complice.
C'est un État
raciste qui s'est mis en place.
Oui, puis le Canada est un État raciste par définition. Oui, dans sa gestion de la société, c'est un État raciste. Quoi.
C'est un État, quoi.
Oui, mais,
il y a aussi le fait que, je crois que c'est au Canada où il y a eu un temps des ajustements. Les tribunaux religieux pouvaient prendre la justice, on va dire, civile, etc. Des accommodements, etc. Donc le rapport aussi aux religieux est différent, et pourtant même si l'Irlande effectivement a été imprégnée à mort de religion, quoi.
C'est clair, ouais.
Donc c'est effectivement aussi intéressant d'observer les différentes réactions qu'il peut y avoir, etc. C'est l'Église et l'État effectivement les premiers responsables, mais encore une fois, moi je n'arrive pas à ne pas parler non plus des croyants et croyantes qui continuent de se revendiquer de ces dogmes-là, parce que mettez ces choses-là sur un autre, sur un autre plan, mais par exemple un courant politique, en fait on se dirait, mais les gens, vous faites quoi en fait, quoi. Et là, en fait, vu qu'encore une fois on est dans du croyant, dans de la religion, dans de la spiritualité, bah là on y va avec des gants, parce que quand même, on s'en fout, en fait les actes sont les actes.
Oui, c'est ça.
Et c'est chacun qui devrait être, à un moment donné, quand même s'interroger sur ce que il et elle portent, Surtout qu'encore une fois, quand on voit les réactions que peuvent avoir certains et certaines croyantes, et surtout toutes les directions religieuses, quand il s'agit effectivement, comme je citais, enfin, des droits des femmes, de l'accès à l'IVG, etc.
Ou des peuples premiers.
Ou des peuples premiers, c'est-à-dire c'est quand même les premiers qui viennent jouer l'ordre moral, etc. Alors dès qu'il s'agit balade, massacre dans des institutions...
Là, c'est des brebis galeuses.
Là, c'est des brebis galeuses, quoi. C'est quand même marrant, en fait. Hein. C'est ils arrivent à nuancer quand ça les concerne, mais pas... Enfin, bref.
Mais là où je te rejoins, c'est que, par exemple, moi, je ne dédouane pas... On dit aujourd'hui, je fais un parallèle volontairement, une digression volontaire, on n'arrête pas de dire il y a 89 élus du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Ouais, mais ils n'arrivent pas par hasard. Donc moi, je rends autant responsable les gens qui ont voté pour eux que le fait qu'ils existent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses n'arrivent pas par hasard. Et encore une fois, c'est pareil pour les religions. À partir du moment où vous réclamez d'un dogme, d'une religion, que vous la soutenez, en fait, à un moment donné, vous êtes co-responsable de ce qui se passe et de ce qui se dit. Donc après, soit vous faites le ménage en interne parce que vous pensez que c'est utile. Ok, allez-y, mais faites-le, prouvez-le. Soit en fait, vous êtes complice.
Je veux dire, s'il n'y a pas de vote en Front National, il n'y a pas de Front National.
Ouais,
s'il n'y a pas de croyants, il n'y a pas d'église, en fait. Il n'y a pas de dogme.
Un jour, on parlera de la mise à disposition des édifices religieux en France. Tiens, je fais peut-être un sujet là-dessus.
Ouais, pourquoi pas. Mais on peut quand même aussi se rappeler, vite fait, avant qu'on fasse la pause, c'est au début qu'il y a eu tous ces charniers qui ont été découverts au Canada, il y a quand même, par la grâce de Dieu, des églises qui ont brûlé. Et ça, quand même, bravo à ceux qui l'ont fait. Parce que, je veux dire...
La foudre tombe des fois au mauvais
moment. Ouais, c'est ça. C'est Dieu, il s'est auto... Enfin bon, c'est... vraiment, il y a des choses inexplicables. Enfin bon, si on n'a plus rien à rajouter, je vous propose qu'on passe... Ah, pardon Clara, c'est bon, tu es OP ? Ok. on passe à la musique et on se retrouve juste après.
Par le bon Dieu et presque tout le monde.
Ah, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, et je ne m'entends pas beaucoup, et vous êtes toujours donc, je disais, à l'écoute de Radio Canu.
Oui, c'est bon, t'as entendu par contre.
Oui, pardon. Oh, ça va. Et on vient de s'écouter Gargantua avec le titre « La mort avec toi ouais. ». Et c'était un beau programme.
Tout à fait.
Donc... C'est pour votre été, pour vous proposer des activités.
Oui. Alors moi je trouve quand même que la punchline, j'ai mis le feu à Notre-Dame pour te déclarer ma flamme, est la punchline de l'été.
Voilà. Je pense aussi. C'est un beau projet. C'est notre projet. Et c'est Fab qui prend la suite et qui va nous parler de la rencontre de l'ordre moral. Et du développement personnel.
Ouais, c'est ça, c'est marrant.
C'est
en fait.
Un beau programme, c'est ça aussi, dites-moi.
C'est presque une régression personnelle.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà, sur la sexualité, parce que c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, pour celles et ceux qui suivent un peu le monde tel qu'il est en ce moment, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'une énorme vague de psychologie positive et autres développements personnels s'est abattue sur les sociétés occidentales en manque de nouvelles religiosité ou spiritualité. Jean-Yves, il est en train de trifouiller des câbles, je ne sais pas ce qu'il fait. De plus en plus, on peut constater que le développement personnel et la psychologie poussée à outrance sont venus finalement remplacer les religions, avec des dogmes et des croyances tout aussi infondées que dans les religions légales ou non. Au passage, voilà. Je citerai comme ça un exemple qui avait fait un peu scandale. C'était un bodybuilder qui s'appelle... Non, pardon, on ne dit pas comme ça. C'est un homme qui fait de la gonflette, qui s'appelle Thibaut InShape, qui avait sorti une vidéo en expliquant que finalement, tu pouvais te relever de tout et qu'il ne fallait pas te plaindre de ta maladie, de tout ça. Ça démontrait que c'était un dogme de penser que... Arrête de toucher les fils. Arrête de les toucher. Bon, excusez-nous, mais il y a Jean-Yves qui est en train de toucher les casques en direct, et ce qui fait qu'on ne s'entend plus. Donc, du coup, je reprends. Donc, Thomas Witkowski, qui est psychologue rationaliste, ça existe, je vous invite à lire son blog, d'ailleurs, parce que c'est plutôt agréable à lire, a décrit sur son blog, alors c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire facilement, et aussi dans deux de ses livres, la transformation de la psychologie positive et du développement personnel en néo-religion. Et oui, vous voyez, je cite mes sources parce que ça m'arrive de temps en temps. Et là, ce soir, je me suis dit que celle-là, elle valait le coup. Donc, du coup, il y a un domaine qui n'était pas touché parce que, comme on disait, au-delà de se substituer aux religions, il est démontré depuis longtemps que la majorité de ces techniques de développement personnel, pour ne pas dire quasiment toutes, ont des bases fortement religieuses au départ en réalité. Le pardon dont tu parlais y est par exemple omniprésent. Il faut tout pardonner. Il faut pardonner à ton patron qui soit méchant, il faut pardonner à ton partenaire qui t'ait frappé, il faut pardonner il faut tout pardonner parce que ça va mieux après. Alors moi j'ai toujours pas compris comment pardonner permettait d'aller mieux, mais bon. Le fait de se dépasser aussi, vous savez, il faut dépasser comme c'est prévu dans notre destin. Là, je vous parlais de Thibaut InShape, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que, t'as une sclérose en plaques, marche, parce que c'est que dans ta tête que tu arrives plus à marcher.
Oui, c'est ça, c'est on retourne le truc, c'est-à-dire qu'on culpabilise en fait.
La culpabilisation permanente de la personne.
Et ça, effectivement, ça, c'est une bonne base aussi.
C'est très, très religieux. Autres exemples. Si on a une lecture un peu critique, ça nous saute quand même aux yeux ce côté extrêmement religieux, pathos qu'il y a dans tout ça. Et on peut le dire, ça nous fait un peu vomir au passage. Voilà, bon. Un sujet échappé un peu à tout ça, c'était la sexualité. Alors, pour une raison simple, je vous l'ai dit, base religieuse, sexualité.
Il y a un tic quand même.
Jusqu'à maintenant, ce sujet était assez peu abordé, mais c'était quand même pour les gourous de ces petites sectes, parce qu'on va dire que chaque courant de développement personnel et de pensée positive, tout ça, est quand même une petite secte à en devenir, souvent, voire même des grosses sectes pour certaines. Ouais. Voilà. Donc, ils se sont dit, on va quand même pas passer à côté du jackpot. Oui. Parce que ça fait des sous, quand même. Et voilà donc que fleurissent des méthodologies pour une sexualité libératrice connectée au présent. Ça existe.
Voilà. Oui, et en même temps, j'ai le souvenir de certains, on va dire gourous, parce que j'ai pas vraiment d'autres noms, qui avait pas vraiment de souci avec la sexualité parce que
eux.
Je crois que oui en fait une des manières d'accéder à
Alors ça, c'est dans des sectes. Là, je parle vraiment de courants de développement personnel.
Oui,
mais il y a eu des abus. Hein. Attention, mais c'est souvent quand ça virait dans des trucs plus sectaires. Et donc aussi, on trouve beaucoup aujourd'hui, notamment en ligne, hein, parce que vous savez que tous ces trucs-là se font majoritairement sur Internet, des cours de sexualité pour vivre en femme et mère. Oui.
Voilà. C'est un beau programme.
Voilà, alors oui, j'ai oublié de dire quand même que les personnes qui ont recours le plus aux méthodes de psychologie positive et autres développements personnels sont majoritairement des femmes. Voilà. Alors normal, parce que c'est un peu la cible hein, de ces trucs-là, et surtout parce que dans une société patriarcale, où les femmes sont généralement maltraitées globalement et où elles sont infériorisées en permanence, et bien en fait, ça fait une porte d'entrée pour tous ces gens qui vous disent « je vais vous upper », comme ils disent. Oui, vous upper, vous amener vers le haut.
Tout en utilisant quand même les mêmes techniques. Quoi.
Ouais,
c'est-à-dire la culpabilisation.
Pas déconner, ils n'ont rien inventé. Hein. D'ailleurs, les vendeurs, oui, parce que rien n'est gratuit. Hein. Attention, la première vidéo est gratuite, les suivantes, il faut payer.
Tous les bons dealers.
Je vais le dire parce que je tiens à le dire, je n'ai strictement pas payé, parce que je me suis refusé à payer pour voir, parce que j'aurais pu hein, aussi aller creuser, mais j'ai plutôt cherché s'il y avait des sources. Voilà. Donc les vendeurs de ces fameuses méthodes savent comment les faire connaître et par qui. Et voilà donc les influenceuses et influenceurs du net. Vous savez, ces gens qui vivent en étant des panneaux de pub permanents sur le web, qui sont mis à contribution. Donc c'est un cocktail détonnant mais assez lucratif hein, finalement, selon certaines sources, hein, ces méthodes de sexologique nouvelle génération auraient déjà rapporté plusieurs milliards. Voilà, c'est pas rien hein, quand même.
Oh, c'est un bon marché.
Voilà. Donc il y a quand même les féministes qui commencent à sonner l'alarme, alors que ce soit en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on le sait quand même, la sexualité est une sexualité libérée, hein, comprise et maîtrisée pour qui que ce soit, hein, homme ou femme, ou autre d'ailleurs, est une source de liberté absolue et qui ne peut qu'être enviable. Oui, mais attention, ces méthodes, elles ne vous vendent pas du tout ça, parce que si c'était le cas, elles feraient de la libération sexuelle, c'est pas tout ce qu'elles vous vendent. Ce sont d'ailleurs des féministes américaines et européennes qui ont les premières tiré la sonnette d'alarme. Il faut savoir que toutes ces méthodes sont, quel que soit le domaine, basées sur l'idée, au départ, donc comme tu le disais et comme on le disait, que tout est de votre faute. Et pour la sexualité aussi, ça ne déroge pas. Si vous et votre partenaire n'avez pas de plaisir, c'est de votre faute. Oui, on voit, on revient quand même des années en arrière avec cette vision. Hein. Welcome to the années 50.
Voilà. To the 50s.
Oui, to the 50s, mais je voulais rigoler. Pire, les militantes soulignent, et j'ai pu lire des contenus qui effectivement vont dans ce sens-là, parce qu'elles ont publié des contenus qu'elles ont trouvés, que la vision de la femme et de la famille est plus que traditionnelle, pour ne pas dire autre chose. La femme est donc, je cite, le centre du foyer, et doit, je cite toujours, offrir la satisfaction à son mari et à sa famille d'être dans un environnement serein. Voilà, hein, parce que mesdames, c'est quand même beau job. Donc on peut lire ça dans une méthode en vogue. Alors quand je dis qu'elle est en vogue, on estime que cette méthode, elle est suivie par au minimum 1 million d'Américaines aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas une petite...
Oui, c'est pas rien.
C'est pas rien. Mais bien entendu, hein, et je continue, c'est dans la même méthode, elle doit offrir à son partenaire s'offrir à son partenaire et offrir le plaisir à son partenaire, sinon celui-ci pourrait avoir envie d'aller avoir une autre partenaire. Ses besoins étant différents de ceux de la femme.
Ah bah oui, c'est...
Voilà.
Donc, c'est hyper moderne, hein.
Ouais, on sent la modernité
du
truc.
Ça sent la modernité.
Alors oui, on se penserait quand même dans les livres des bonnes épouses des années 50.
C'est carrément ça, quoi.
Donc voilà, mais en fait, c'est pas illogique. Hein. Encore une fois, les méthodes de développement personnel sont souvent des extensions des religions, hein, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes ou hindouistes. Sauf que dans aucune de ces religions n'existe de réelle émancipation pour la sexualité et encore moins pour les femmes. Hein, donc on imagine bien que ça allait pas donner des trucs ultra novateurs. Et surtout, comme le disent les féministes, nous on ne fait pas du développement personnel parce que c'est pas le but, on fait de la transformation de société. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est pas de voilà. Et une féministe qui dit, même ses gourous utilisent le terme de déconstruction, qui est un terme en fait militant, mais qui n'est pas un terme de développement personnel du tout au départ, pour le retourner en disant tu n'es pas assez déconstruit, mais en fait pour essayer de vous reconstruire comme dans les années 50. donc elles disent attention, il y a un vrai holà à mettre sur ces personnes-là. Et surtout, encore une fois, c'est pas des vidéos faites par des vieilles rombières ou des vieux préchis préchats, hein, pas du tout. Hein. C'est fait par des jeunes qui sont généralement un petit peu dans le look actuel et qui ont un discours par contre extrêmement réactionnaire. Voilà.
Ben oui, enfin je refais de l'autopromo, mais pas vraiment, mais sur le sujet d'avant, le Vatican parlent via Twitter, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
Que toutes ces...
Ils utilisent des créneaux.
Ils peuvent avoir des idées de merde qu'on penserait retrouver dans les poubelles des siècles passés. Pour autant, ils ont une capacité d'adaptation et de saisir, en fait, les outils du moment pour étendre leur pouvoir, en fait.
Donc c'est pour ça en fait que les féministes montent au créneau contre ces méthodes, car elles sentent bien que pour les plus aguerries d'entre elles, qu'on est là face à une offensive réactionnaire de grande ampleur et pas juste d'un petit coup comme ça, parce qu'il faut vraiment s'en inquiéter.
Ouais, c'est-à-dire que s'offrir à son partenaire, être une bonne femme et mère, je veux dire, il y a quand même des trucs, tu dis oui, en fait.
Alors, il y a quand même un paradoxe, je viens de signer, parce qu'on va encore me dire, parce que souvent les gens me disent, oui, tu parles beaucoup de chiffres aux États-Unis. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les Américains ont beaucoup moins de mal à donner des chiffres, alors que quand vous voulez des chiffres en France, c'est très compliqué à obtenir. Je vais prendre un exemple, je fais un parallèle volontaire et c'est une digression. Vous prenez la société Herbalife, qui vend des compléments alimentaires à tour de bras et qui est multimilliardaire aujourd'hui. Vous pouvez très facilement savoir aux États-Unis quel est leur volume de vente. C'est-à-dire que vous allez sur n'importe quel site, vous saurez quel est... Et alors, c'est valable aussi pour ces trucs de sexologie bâtarde, là. Ouais. Vous pouvez savoir combien il y a de... Ils vous donnent très facilement les chiffres, on a tant de personnes, on vend tant pour tant de milliards. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, ça se fait machin. Et c'est très compliqué à avoir en France. Alors effectivement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de personnes en France suivent ces trucs-là. Mais en réalité, si vous êtes déjà 1 million d'Américaines, dites-vous qu'en Europe, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un peu moins. Quoi. Peut-être un peu moins, mais pas beaucoup moins, en fait. Voilà. Et donc, les autres qui ont tiré la sonnette d'alarme, ce sont les sexologues. Parce qu'il y a plusieurs sexologues qui ont publié des tribunes pour alerter sur ces pseudo-méthodes. Alors, non pas comme ils le soulignent eux-mêmes, parce qu'ils perdraient des clients. Ce n'est pas du tout, parce que ça a été la réponse, vous savez.
Ah oui, évidemment.
Non, c'est qu'en fait, ils soulignent quand même que partir de la culpabilisation pour aider à trouver sa sexualité, c'est le pire des chemins. Parce qu'en fait, c'est ce que disent les sexologues, la première chose à faire, c'est de déculpabiliser sur la sexualité. Si vous partez sur la culpabilisation, ça ne marche pas. Et comme ils le disent aussi plusieurs d'entre elles et eux, du coup, en prime, ces méthodes sont extrêmement normées, centrées sur l'hétérosexualité, comme seule sexualité viable et épanouissante, niant l'onanisme, le déconseillant même dans plusieurs méthodes, donc, c'est-à-dire la branlette ou la masturbation. Et donc, en fait, par exemple, le docteur Farouche Imad, qui est sexologue à New York, le dit avec des mots simples, nous sommes ici face à des croyances sexistes, misogynes et homophobes. Elles ne peuvent être émancipatrices ni curatives. Parce que si vous avez un problème de sexualité, avec votre sexualité, là, vous n'avez pas trouvé de solution. Car là est bien le problème aussi. Ces méthodes, soi-disant miraculeuses, sont vendues en ligne sans réel suivi et elles auraient une clé universelle, finalement, pour résoudre tous les problèmes.
Oui, c'est ça. 7 milliards d'individus, une seule solution.
Voilà, c'est ça. Or, donc, le même sexologue que celui que je citais juste au-dessus rappelle une chose. Chaque problème de sexualité est propre à chacun et chacune. Il n'y a pas de cas similaire, comme il le dit, jamais. Même quand ça se ressemble, il y a parfois des causes différentes.
Oui.
Et alors, il le dit, affirmer par exemple qu'une personne victime de violences sexuelles dans son enfance a besoin des mêmes méthodes qu'une personne pudique par nature est non seulement idiot, mais surtout dangereux, d'autant plus si on commence par culpabiliser cette personne.
Oui.
Voilà. Et ça, en fait, pour eux, c'est extrêmement important de le rappeler, parce que c'est grave et que c'est très dangereux. Et comme ils le disent dans une tribune, c'est un retour en arrière sans précédent. Et en fait, pour eux, c'est un retour de balancier post-MeToo. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sexologues, notamment femmes, qui disent... En fait, là, on a un retour de balancier réactionnaire qui veut renormer
contre-attaque des réactionnaires.
Exactement. Et la crainte de ces médecins, c'est de voir, en fait, finalement, les plus jeunes, les plus enclins à suivre les prescriptions publicitaires du net et des influenceurs et influenceuses, s'en remettre à ces solutions plutôt que d'émanciper leur sexualité. Alors, moi, je me suis quand même interrogé, je me suis dit, mais et le rôle des milieux progressistes dans tout ça ? Parce que quand même... C'est bien de dénoncer, moi j'ai pas de problème à dénoncer ce que je viens de dénoncer, puisque je l'aurais pas fait. Mais ne nous mentons quand même pas trop. Si le développement personnel et autres a le vent en poupe, au point de s'attaquer aujourd'hui à la sexualité, c'est avant tout parce que les milieux progressistes n'offrent plus d'espace de dialogue sur des sujets aussi importants. Laissant donc toute la place aux réactionnaires et aux adeptes du capitalisme, finalement, pour s'engouffrer dans la brèche. D'une époque de libération sexuelle, nous semblons être arrivés dans les milieux progressistes à une époque où la sexualité n'est plus un sujet, mais un objet définissant. C'est sans doute là que nous faisons collectivement une erreur. La sexualité, elle se vit, et elle n'est qu'une part de nous-mêmes, pas un moyen de fixer une étiquette. La liberté demandée semble avoir étouffé le fait de parler, d'oser ouvrir des espaces où l'on peut échanger sereinement sur des sujets sans tabou, et se poser des questions les uns avec les autres, ou les unes avec les autres. Il est donc logique de voir finalement de nouvelles religions, de nouveaux mouvements spirituels débarquer. On va pas se mentir, hein, quand on n'explique pas quelque chose, c'est là que la religion arrive. C'est toujours comme ça, le miracle. Voilà. Si nous pouvons dénoncer l'apparition de ces trucs, hein, et en dénoncer les dérives, il n'y a pas de problème, cela ne doit en rien nous dédouaner de nous remettre en question sur comment nous avons pu laisser échapper cela de notre espace et de l'émancipation réelle de l'humanité. Parce que c'était quand même notre job à un moment donné, à nous autres les progressistes. Mais je fais large hein, quand je dis progressiste.
Oui.
Notre responsabilité est réelle et nous devons sans doute nous remettre à inventer les moyens et les espaces qui permettront à des gens de sortir de leur peur pour arriver vers quelque chose de logique et pouvoir se libérer réellement. Voilà. Sans cela, nous laisserons régner la réaction et nous laisserons revenir par tous ces outils. Qui ne cherchent qu'à nous rendre compatibles, non pas avec la liberté, mais avec le capitalisme et le travail. À nous donc, comme contre les religions, de reprendre le combat.
Ben oui, et d'oser parler de sujets, ben en fait. Et c'est vraiment... Enfin, on en a déjà parlé ici quelques fois, de sexualité, etc. Mais c'est, effectivement, c'est... moi je suis désolé, mais oui, ça fait partie de notre camp. Et moi, c'est pour ça que j'étais super heureux de voir que, par exemple, sur Lyon, s'organisent des ateliers où on vous dit, ben voilà, toute personne, enfin, les meufs ou les mecs trans, enfin, découvrez votre corps, en fait, quoi. Regardez-le, etc. C'est une des bases, en fait, du féminisme. C'est connais-toi déjà toi-même, en fait. Apprends à connaître ton corps.
Et je voulais juste rappeler. Toute personne qui vous dit que la masturbation, le fait de se donner du plaisir est un problème, il en veut à votre liberté.
Oui.
Parce qu'en fait, la masturbation, c'est la découverte, c'est la porte d'entrée au plaisir. Mmh. Et donc, en fait, toute méthode, tout dogme, toute chose qui commence par vous dire que vous perdez votre temps à vous masturber, pardon, je ris, mais parce que je suis en train de me dire qu'il y a des dogmes à gauche aussi qui disent ça. Mais en fait, voilà. Mais tout dogme qui, comme ça, en fait, dites-vous, bah, je prends ce qu'on est en train de me dire, puis je le brûle parce que ça n'a aucun intérêt. Mmh. En fait, en réalité, la porte d'entrée du plaisir, du désir et de la sexualité, c'est l'onanisme. Et en fait, en réalité, à chaque fois qu'on cherche à maîtriser l'onanisme ou à l'interdire, en fait, on cherche à vous empêcher d'exister. Et donc, c'est ça le truc. Et toutes ces méthodes-là et tout ce que j'ai pu lire, là, je vous ai résumé ça très rapidement. J'allais pas vous faire un... Voilà, vous chercherez sur Internet, c'est assez facile à trouver. Il y a quand même des trucs surréalistes dedans où quand même on vous explique que si votre enfant se masturbe, c'est un problème. Mais ouais, en fait, votre enfant, c'est normal qu'il se masturbe, c'est logique.
Oui.
Tout le être humain, en fait. Et le truc, et là, c'est qu'on est en train de ravoir relents réactionnaires avec des outils très modernes. Mmh. Et que si on n'y prête pas gare, et si encore une fois, comme j'entends souvent dans nos milieux, ouais, mais c'est sur Internet, on n'en a rien à foutre. Alors, Internet, c'est 5 milliards d'utilisateurs. Donc, il faudrait peut-être un petit peu arrêter de se dire qu'on n'en a rien à faire parce que c'est 5 milliards d'êtres humains. Mmh. Et c'est 5 milliards d'êtres humains qui sont sur Internet. Donc, on peut continuer à vivre dans nos grottes, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, personnellement, je visais l'émancipation de l'humanité, pas juste de mon petit cul. Voilà.
Oh, toi aussi, tu penses trop collectif, quoi. Tu devrais un peu intégrer cette pensée libérale, tu vois. Chacun sa
chacun
gueule.
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Eh ben voilà. Tu vois. Moi, je pense que ça, c'est porteur.
Tu vois, ça, c'est l'avenir.
Non, tu penses pas, Clara?
Tout à fait.
Clara, elle a hâte qu'on ferme nos bouches et qu'on passe à la musique.
Allez, c'est parti. Have you ever swam so far? Far enough to breathe. Swim in the ocean, kicking my feet in waves of devotion. Oh,
Et c'est toujours la causerie sur Radio Canu. On vient d'entendre Ron et Georgia avec le titre Waves of Devotion.
Mm-hmm. Très bien. Il y a un peu un double sens dans les paroles de cette chanson.
Ah bon ?
Ouais, je crois que ça parle un peu de sexualité aussi.
Non, penses-tu ?
Bande de mécréants, on va encore des problèmes, nous. Hein.
Ouais.
Je sais pas
on
avec
aime
qui,
bien.
Avec qui, je sais pas. Bah, les réacs.
Avec Dieu. Du coup, on craint pas grand-chose. Jusque là, ça va.
Là, voilà. Ah, mais le pire, c'est souvent pas Dieu. Hein. C'est ceux qui croient en Dieu.
Ouais,
hein.
C'est ça. Tout autre chose.
Ah bah allons-y.
Une petite brève quand même. Vous savez, on avait reçu des jeunes dans l'émission qui étaient des personnes qui étaient sans abri, comme on dit maintenant. Enfin là, c'est surtout des jeunes qui n'avaient pas d'endroit où vivre et qui n'ont pas de papier non plus et qui étaient aidés par un collectif qui à l'époque s'appelait le Collège Sans Frontières Maurice Sèvres. Et puis bon, ensuite, il y a eu plusieurs lieux.
Chemineurs
et autres. Et voilà. Et donc, en fait, et ben, ces jeunes, une bonne partie a été donc virée des différents squats et une partie s'est retrouvée pas sans solution. Hein, parce qu'on sait bien que la métropole, elle sait faire des choses très très bien.
Oui, parce qu'on a une métropole de gauche. Et voilà. ça, il faut s'en rappeler.
Donc, comme d'habitude, ben, on a une partie des jeunes qui se sont retrouvés sans rien et sans rien.
À dormir dehors, hein, sous des tentes dans un parc.
Ils sont dans un parc, hein, sous des toiles de tente. Donc, c'est le campement au parc Ferrié. Hein, voilà. Ça fait déjà un mois qu'ils sont sur place. Hein, la ville de Lyon, la préfecture, personne ne fait rien, il faut être très clair. Et c'est juste un petit peu un petit rappel. Hein, ce sont des mineurs hein, pour la plupart. Donc en fait, je vais le traduire parce que je trouve que parfois on prend des circonvolutions. La ville de Lyon, la métropole de Lyon, la région, l'ensemble des villes de Lyon laissent dormir dehors des mineurs en pleine rue.
C'est ça.
Voilà. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est beaucoup plus clair sur le pourquoi il y a un problème. Voilà. Mais ces mineurs, en plus, comme si ça ne suffisait pas, on leur a mis des points pour aller manger. Parce qu'on s'est dit, voilà. Mais on en a logé certains super loin.
Des points, des lieux.
Des lieux, oui, pardon. Des lieux pour aller manger. Mais certains, on les a logés très très loin.
Ah oui, il y en a, ils sont en dehors de la métropole lyonnaise.
Et on leur a dit, mais c'est pas grave, tu viens en bus. Voilà. Et c'est là que ça devient drôle, parce que, pardon, je ris jaune, la métropole n'a même pas été foutue de leur donner une carte de bus. Vous voyez ? Donc, il y a des mineurs qui se retrouvent contrôlés dans le bus. Et, disons-le, comme ces mineurs ont la malchance de ne pas être blancs, pour la plupart, ils sont donc contrôlés d'autant plus, parce que nous sommes dans une ville de gauche, évidemment.
Souvenons-nous-en.
Donc, ils se retrouvent à avoir des amendes, hein, et c'est un peu compliqué. Donc, il y a une solidarité qui se met en place et qui vous propose d'amener des tickets de bus. C'est con, hein, ce que je suis en train de dire. On a l'impression que je dis un truc qui ne devrait pas avoir lieu sur Radio Canu et que je ne devrais pas dire. Mais je le dis parce que oui, il faut amener des tickets de bus. On en est là aujourd'hui. Hein. Alors, la métropole, tout ça, c'est en plus... Je vais faire un petit peu d'humour, pardon. Mais pour une métropole écolo, le déplacement durable, ça devrait leur parler. Donc, ils devraient donner des tickets à ces gamins. Mais bon.
Oui, mais pour ceux qui sont français,
voilà.
Enfin
bon, bref, je suis très écœuré. Et dire ce que je dis ce soir est compliqué pour moi parce que j'ai une colère et j'ai envie de gueuler, là, en fait. Donc, j'essaie de me retenir. On est à la radio et il y a un micro. Et après, vous n'allez rien entendre. Non, mais si je gueule, on n'entend plus rien, c'est de radio. Donc, voilà. Donc, il faut aller leur amener des tickets de bus. Donc, vous pouvez le faire soit directement au square Gustave Ferrier, hein, vu qu'il loge là-bas, mais plutôt en soirée hein, et plutôt vers un adulte, si vous devez donner des tickets. C'est pas qu'on n'a pas confiance dans les enfants, c'est pas du tout l'idée, mais c'est plutôt l'idée qu'à un moment donné, eh ben, ce sont des enfants et qu'on n'aborde pas des enfants comme ça. Voilà. Il y a aussi le bar auprès de mon arbre, hein, qui est 5 rue Burdeau, dans le premier, qui récupère les tickets. Hein, donc, ce bar est ouvert de 16h à 1h du matin. Voilà. Il y a aussi la crieuse publique de la Croix-Rousse hein, qui a mis des boîtes à clés et des boîtes à lettres à clés, vous savez, un peu partout, pour mettre des messages qu'elle crie. Et elle invite les gens à glisser des tickets de bus hein, dans ces boîtes, hein, de messages et des tickets de bus. Donc c'est au bistrot Jutard, hein, qui est donc deux places de la terrasse dans le 4e. C'est au docteur Yetz, qui est 6 rue de Cuir dans le 4e. Et c'est le bistrot Fessabroc aussi, qui est rue Duminge dans le 4e. Alors je ne suis pas en train de faire de la pub pour ces lieux, je suis en train de vous dire où vous pouvez mettre des tickets de bus pour que des gamins puissent aller bouffer sans être contrôlés et risquer une amende. Voilà. Bienvenue en 2022, dans une époque merveilleuse et fabuleuse où une mairie, une métropole de gauche laisse dormir des enfants dans la rue. Voilà.
Oui, cette situation, elle s'est aussi Il existe aussi à Paris, si je ne me trompe pas, où pareil, les jeunes ont été virés de squat et dorment dehors. Je crois à Bordeaux, on a la même chose.
Ouais, mais
c'est donc ça, le pays des droits de l'homme.
Non, mais en plus, je vais dire quelque chose. Enfin, on fait tout à moitié. C'est ça, moi, qui m'agace le plus. C'est-à-dire qu'on fait semblant de trouver une solution.
Oui. Mais ça marche parce qu'il y a toujours des votants, en fait, pour aller soutenir plus ces gens-là.
Non, mais je suis agacé parce qu'on fait semblant de trouver une solution. On laisse des gens encore plus dans la merde. On fait des solutions bâtardes et bancales. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes y repartent.
Bien sûr.
Mais on va être clair, ils ne vont pas repartir, ces jeunes. Ils ne peuvent pas. Ils ont traversé des trucs. Moi, je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait avec eux. Ils ont traversé des choses que moi, même 10% de ce qu'ils ont traversé, je ne suis même pas sûr que j'y survivrais. Et ces gamins, en fait, ils l'ont fait. Ils sont là. Et ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et à un moment donné, mais ce n'est même pas une question d'humanité ou je ne sais quoi. C'est une question juste de se regarder en face. Est-ce qu'on a envie, collectivement, de se dire qu'il est normal qu'on mette en danger la vie d'enfant ? Voilà. Et même d'adultes, hein, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, d'enfants. Et c'est ça, le truc. C'est qu'à un moment donné, bah, c'est aussi collectivement qu'il faut qu'on réagisse. Donc, bah, encore une fois, au moins, les tickets de bus, c'est un minimum. Mais il faudra sûrement aller au-delà. Et peut-être qu'un jour, il faudra aller discuter avec le maire directement, en face à face. Vous savez, ça peut se faire, des fois.
Ah bah oui, oui. Enfin, c'est... oui
et
oui.
Surtout si on est beaucoup. Pas bon.
Oui, enfin, pour avoir fait quelques rassemblements en soutien de ces jeunes, si on était beaucoup, ça se saurait, les choses changeraient aussi.
Oui, non, mais voilà, mais ce que j'ai
en fait, c'est que quand même beaucoup de gens s'en tamponnent complètement parce que j'en sais rien, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont pas français ou je sais pas quoi. Et la question,
ils sont pas tous noirs d'ailleurs, mais
non, mais la
question,
la question qui est, c'est de toute façon en fait, enlève le patriotisme, enlève le nationalisme à tous les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il leur reste quoi en fait? La gauche, il leur reste plus rien.
La clé sous la porte,
donc fermez boutique, laissez la place nette et puis on se démerdera pour prendre les choses en main nous-mêmes. Et à la rigueur aussi, tiens, on sait pas, hein, peut-être que un ou une salarié des TCL nous écoute. Eh ben écoute, vois peut-être en interne, si t'arrives pas à tirer des tickets, ça peut se faire aussi, personne dira que tu les as tirés, mais ça peut aider des jeunes à pas se faire chier.
Ouais.
Et à pas être emmerdé par des contrôleurs qui prennent un malin plaisir justement à contrôler ces jeunes et à les humilier devant tout le monde en leur montrant bien que eux, ils ont pas leur papier, ils ont pas la thune, ils ont pas leur ticket, quoi. Donc chacun peut, là où il est, faire des petites choses, et si tu peux en plus voler ton patron, eh ben fais-le.
Tire ton patron.
Bah, je veux dire, c'est nous qui créons les richesses, donc on peut bien leur prendre ce qui nous est dû.
On reprend ce qu'on crée, quoi.
Bah oui, en fait. Rien de révolutionnaire là-dedans. Enfin.
Voyons.
Bon, il est 23h.
Ouais, on a la bourre comme d'hab.
On va se quitter. C'est qui annonce le titre?
C'est moi. Alors là, moi, ce soir, c'était. Ouais, alors, on repart totalement dans autre chose. Là, je vous conseille, si vous êtes chez vous, alors vous soyez seul ou pas plusieurs, 1, 2, 3, 12, vous baissez un peu la lumière, si vous pouvez. Voilà. Vous mettez un peu des ventilateurs, parce qu'il fait chaud, si vous en avez. Et en tout cas, vous écoutez Black Party avec Childish Gambino. Vous chantez I love you more than you know.
Ah oui, c'est très lover-lover.
Hein. Ah ouais, c'est mon titre du moment.
Eh bien, très bien.
Voilà.
Eh bien, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain encore. On sera là.
Oui.
Pour la causerie, toujours 22h, 23h à l'antenne de Radio Canu. D'ici là, n'hésitez pas à écouter Canu. En ce moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions, eh bien, vous écoutez des bandes continues complètement folles qui sortent de la nuit des temps. Ouais, si, y en a une, elle vient de très 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 loin. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez encore plus de diversité sur les bandes qui sont complètement folles en fait. Donc kiffez aussi ça, parce que c'est aussi, ça fait aussi partie de Radio Canu en fait, quoi. Cette variété de sons. Donc kiffez bien, bon courage à celles et ceux qui bossent, bon courage à celles et ceux qui sont enfermés, à l'hôpital, en prison, à la maison, ça peut aussi arriver. Et bon courage, parce que les prochains jours vont de nouveau être très 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 chauds. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, parce que c'est des fois très compliqué de tenir face à cette chaleur et tout ce que ça incombe, quoi. Bon courage, à dimanche prochain, 22h, 23h.
À dimanche, des bisous.
Ciao, ciao.
Ciao.
Never thought I'd see 40, I hope it's 40 to go. My dad tomorrow, who knows? Your mama says you was grown, was trying to buy you new clothes. At Bodie, knowing you probably grow out of them shortly, new feet. Them daddy shoes was oversized, grew in the womb quick. The deepest blue when daddy died, the ocean was jealous. I'm trying to be around a little longer than my father and my father's father. Why even bother? If time is water, you ankle deep. Elmo floaties, bubbles of life uncertain. I'm drifting off to the falls. I struggle to fight the current, wishing that I could pause. God, let me borrow that universal remote. With no rehearsal, they wrote a whole verse. That's the earth we get served. With no regrets, with no shoes or no shirt. And that's birth. I never meant to make the thing hurt. But what's worse, we never meet at all. Never know.
When we escape to the beach,
let's make a great escape. Let's
make a watching great the waves crash.
Watching the waves crash.
Just you and me.
Planting seeds, you and me,
waiting to see our God.